Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'exode des jeunes diplômés en Europe de l'Est et du Sud. Ils sont des milliers chaque année à choisir d'émigrer au sein de l'espace européen et parfois plus loin. En Europe centrale ou orientale, cet exode date de la chute du mur de Berlin et il se poursuit aujourd'hui encore. Nous allons en Macédoine du Nord. Dans ce petit pays, l'intégration à l'Union européenne demeure lointaine. Les négociations d'adhésion n'ont toujours pas commencé, la corruption reste un problème et les jeunes macédoniens ne voient pas leur avenir dans les Balkans. Malgré le changement de gouvernement il y a 2 ans, la jeunesse macédonienne continue de quitter le pays en masse, notamment vers l'Allemagne. C'est un reportage de Louis Seyé à Skopje.
Dans un petit restaurant populaire de Skopje, un groupe de jeunes filles chante et danse autour d'une de leurs amies. Celle-ci est enceinte et fête l'enterrement de sa vie de jeune fille. Fonder une famille en Macédoine du Nord, c'est tout simplement hors de question pour son amie Ivana.
Mon salaire est de 400 euros et j'ai des dépenses fixes d'au moins 250 euros. On ne peut rien faire avec ce type de revenus. Nous sommes jeunes, nous voulons voyager, faire de nouvelles expériences. Par exemple, hier, il y avait le concert de Lenny Kravitz ici à Skopje et les tickets étaient à 50 euros. Très peu de gens ici peuvent se permettre cette dépense.
Ivana vient de Kumanovo, une ville industrielle du Nord particulièrement polluée. Si la jeune femme veut quitter la Macédoine du Nord, c'est aussi à cause des problèmes environnementaux du pays et de leur impact sur la santé.
Tout le monde est différent et bien sûr la question des salaires est importante, mais pour moi le plus important, c'est les conditions de vie. Je ne me vois pas rester ici à cause de la mentalité des gens. Ici, les gens jettent leurs ordures n'importe où et la qualité de l'air, en hiver la pollution est terrible. Ce n'est pas bon pour notre santé et c'est le plus important pour moi.
L'immigration n'est pas un phénomène nouveau en Macédoine du Nord. Près de 500 000 personnes ont quitté leur pays depuis les années 90, l'équivalent d'un quart de la population totale. Ces dernières années, partir semble devenu le seul horizon de la jeunesse. La politologue Ilina Mangova parle même d'épidémie.
Depuis l'indépendance de la Macédoine du Nord, dans les années 90, il y a toujours eu une très forte émigration. Mais ça a fortement augmenté ces 15 dernières années. Aujourd'hui, même des gens qui ont une bonne situation ici ressentent le besoin de partir. Ils sont aussi atteints par ce sentiment contagieux selon lequel c'est mieux de faire sa vie à l'étranger.
Europe de l'Ouest, États-Unis, Turquie, presque toutes les familles macédoniennes ont aujourd'hui un proche à l'étranger. Dans les campagnes, beaucoup de villages sont aujourd'hui déserts. À peine 25 ans, Ivana a déjà vu partir beaucoup de monde.
Beaucoup de mes amis quittent le pays. Certains très bons amis ne vivent plus ici. Ils sont en Suède, en Allemagne. Ma cousine est à Darmstadt et ça se passe très bien pour elle. J'ai beaucoup d'exemples de personnes qui sont parties et elles sont très heureuses là où elles sont.
Le chômage touche presque un jeune sur deux en Macédoine du Nord. Ivana, par exemple, a mis plus de 2 ans à retrouver un emploi. Les conditions de travail dans le secteur privé attirent peu les jeunes et obtenir un poste dans la fonction publique n'est pas donné à tout le monde, comme l'explique l'analyste Ilina Mangova.
Tous les gens qui n'ont pas de réseau par le biais de leur famille ou d'un parti politique, pour eux c'est vraiment difficile d'obtenir un emploi dans le secteur public. C'est pour ça que les gens sont très pessimistes quant à leur chance de trouver un emploi.
Utiliser ses relations dans le système, c'est justement ce qu'a fait Christian. C'est grâce à des amis bien placés que ce sportif de 24 ans travaille aujourd'hui comme informaticien dans une grande entreprise. Même s'il en a lui-même profité, il regrette ce népotisme généralisé. Lui aussi pense un jour quitter le pays.
Les lois sont pas mal, mais personne ne les respecte. On est un petit pays ici, tout le monde se connaît. Moi-même, j'ai des amis dans la police, dans l'administration. Je peux aller les voir et de façon un peu sournoise, obtenir de l'aide au sein de ce système.
Les élections de 2017 ont mis fin à 10 ans de règne du parti de droite nationaliste. 10 années marquées par de nombreuses affaires de corruption. Mais 2 ans plus tard, les espoirs nés de cette alternance sont retombés. Les scandales rythment toujours la vie politique macédonienne. Christian ne les supporte plus.
La corruption est partout. Si quelqu'un vous manque de respect et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire, c'est vraiment désespérant. C'est pour ça que nous voulons partir là où nous serons respectés comme de véritables êtres humains. Par exemple, si un fils de politicien renverse quelqu'un en voiture, il n'est pas poursuivi par la justice. Il vit même mieux après.
Des institutions plus fortes et plus justes, c'est ce qu'espèrent beaucoup de jeunes quand ils quittent la Macédoine du Nord. Ces départs posent un vrai problème démographique pour le petit pays des Balkans. Le recensement prévu l'an prochain Le premier depuis 2002 devrait confirmer l'ampleur de cette fuite des cerveaux.
Pour les jeunes Irlandais, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Infirmiers ou enseignants sont parmi les professions qui manquent et qui s'exilent le plus. Une tendance que les autorités cherchent à inverser. À Dublin, les précisions de Julien Lagache.
C'est la dernière initiative en date du gouvernement pour pallier le manque de professeurs du primaire et du secondaire en Irlande. Un site internet du nom de Turas Avoile, littéralement le voyage retour en gaélique. Ce portail doit permettre aux écoles en sous-effectif d'entrer plus facilement en contact avec des enseignants installés à l'étranger, mais désireux de revenir exercer dans leur pays natal. Les sciences, les mathématiques, les langues vivantes ainsi que plusieurs disciplines manuelles et techniques y figurent comme prioritaires et donnent une idée des matières en tension. Mais au-delà du simple rapprochement entre l'offre et la demande, il subsiste des obstacles majeurs au retour en Irlande des enseignants expatriés. L'enregistrement et la validation de son dossier auprès de l'éducation nationale est régulièrement cité comme l'une des principales complications, tout comme la non-reconnaissance de certains diplômes ou expériences obtenues à l'étranger, synonyme d'une perte de revenus une fois rentré au pays où le niveau des salaires stagne tandis que le coût de la vie explose. D'où le choix de l'étranger pour certains jeunes diplômés attirés par de meilleures perspectives. Les Émirats Arabes Unis, friands d'instituteurs anglophones, proposent par exemple des revenus exonérés d'impôts, une sécurité sociale gratuite, voire des subventions au logement quand l'accès à la propriété et à une couverture médicale coûte très cher en Irlande. La région du Golfe accueille d'ailleurs près d'un tiers des 6000 professeurs irlandais expatriés. Le ministre irlandais de l'éducation y a donc effectué une tournée de 3 jours pour les rencontrer. Pas d'opération séduction cependant, le ministre a prévenu qu'il n'avait pas de solution instantanée ni de marge de manœuvre budgétaire. Il cherche plutôt à identifier des pistes pour favoriser le retour d'enseignants dont l'Irlande aura besoin pour faire face à l'augmentation rapide et attendue d'ici 5 ans du nombre d'élèves dans le primaire et le secondaire.
Pero esto no es todo. Fuga de cerebros, yo, es fuga de cerebros, 1, 2, 3, 4, 5 cerebros.
Dans le sud de l'Europe, c'est l'effondrement des économies qui a conduit des dizaines de milliers de personnes à quitter le pays. Et aujourd'hui, si l'Espagne est sortie de la crise, elle n'est pas sortie de la précarité, Diane Cambon.
Ils sont surdiplômés et pourtant ils ne trouvent que des emplois poubelles. Mais les bas salaires ne sont pas l'unique raison de cette précarité. La grande réforme du travail engagée en 2012 par l'exécutif conservateur pour sortir le pays de la crise économique a flexibilisé le marché de l'emploi, comme l'avait encouragé Bruxelles. Les premiers touchés ont été les jeunes. Près de 70% d'entre eux doivent se contenter d'un marché du travail où les 3/4 des contrats sont à durée temporaire. La majorité cumule 2 emplois ou accepte de travailler en tant qu'auto-entrepreneur, là où ils auraient normalement dû être salariés. Pour beaucoup, partir à l'étranger reste souvent la seule solution pour accéder à un travail avec des conditions et un salaire digne. Il est difficile de mesurer le nombre d'Espagnols poussés hors de leur pays par la crise. Mais quelques statistiques officielles laissent imaginer l'ampleur du phénomène. Le nombre d'Espagnols installés à l'étranger a augmenté officiellement de 56% depuis le début de la crise en 2008. On parle d'un million de jeunes exilés. Le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a lancé un plan national de retour des talents pour inciter ces jeunes cerveaux à rentrer au pays. Il a également approuvé par décret une augmentation de 22% du salaire minimum, passant de 850 euros à 1050 euros bruts mensuels. Certes, c'est un coup de pouce significatif, mais il en faudra peut-être plus de la part des entreprises pour rétablir la confiance entre le salariat et cette jeune population active.
Au Portugal, près de 765 000 personnes ont émigré entre 2011 et 2018. C'est un chiffre considérable dans un pays de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, la croissance est de retour. Pour relancer la machine, le gouvernement cherche à attirer les jeunes diplômés qui ont quitté le pays pendant la crise. C'est un reportage d'Olivier Henrion et d'Alain Demar.
Sylvia a une trentaine d'années. Elle est sortie de l'école d'infirmière en 2009 avec une proposition de travail en poche, mais insuffisante pour vivre correctement. Alors, elle enchaîne le soir avec un second boulot.
J'avais 2 boulots pour avoir un niveau de vie normal. Je travaillais 55 heures par semaine, un travail à plein temps et un à mi-temps.
Seulement, avec la crise économique, l'un de ses employeurs fait faillite. Il ne lui reste qu'un salaire à mi-temps pour vivre, insuffisant pour payer son loyer. Et comme elle ne trouve pas d'autre travail, en 2013, Sylvia quitte le Portugal pour le Royaume-Uni. Elle y est restée pendant 6 ans, jusqu'à son retour en décembre 2018. Sylvia a finalement choisi de revenir, mais beaucoup de jeunes diplômés qui ont quitté le Portugal pendant la crise sont, eux, encore à l'étranger. Un phénomène nouveau dans le pays. C'est ce que nous allons découvrir dans les locaux de l'Université de Porto.
João Teixeira Lopes travaille ici, à la Faculté des Lettres. Je suis sociologue.
João Teixeira Lopes va nous expliquer qu'avec la crise, le Portugal a changé de visage. Les jeunes gens, sortis de l'université, ont quitté le pays.
Les études nous disent que c'est 10%, 20% du total de l'émigration. Donc, on parle pendant la crise de 20 000 personnes par année et on parle aujourd'hui, après la crise, de 10 000 personnes par année.
Statistiques à l'appui, João nous explique que ces jeunes gens ont trouvé ce qu'ils cherchaient à l'étranger. Principalement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France ou encore en Belgique. Des pays de cocagne qui aujourd'hui, avec la reprise économique, font moins rêver les jeunes étudiants portugais. Et si ces étudiants ont plus confiance en leur avenir, c'est parce qu'après les années de vaches maigres, les entreprises recommencent à embaucher. Johanna a fait des études scientifiques. Après avoir roulé sa bosse en Suède, puis au Royaume-Uni, elle est rentrée à Braga, sa région d'origine. Et aujourd'hui, elle envisage d'y construire une usine de haute technologie.
Le Portugal fournit beaucoup de jeunes gens qualifiés, beaucoup de talents. Et dans le même temps, les entreprises de haute technologie ou les centres de recherche sont en pleine effervescence. Et ils commencent petit à petit à absorber les jeunes les plus qualifiés au Portugal.
Le gouvernement vient de mettre en place un programme pour faire revenir ceux qui sont partis pendant la crise. Avec une réduction d'impôts à la clé pendant 3 ans pour ceux qui choisiront de rentrer au pays. L'objectif est multiple, permettre aux entreprises comme celle de Johanna de trouver plus facilement de la main-d'œuvre, rajeunir une population vieillissante et lutter contre les effets négatifs de la fuite des cerveaux. Le professeur Teixeira Lopes.
Il y a un impact très négatif parce qu'on perd du capital humain. Et parce qu'on a dépendu beaucoup d'argent dans l'enseignement supérieur. En même temps, nos services publics n'ont pas assez de gens qualifiés pour faire un bon service.
Et le professeur Teixeira Lopes en est certain, malgré les mesures prises par le gouvernement, la tendance ne va pas s'inverser de sitôt. D'autant qu'un autre phénomène nouveau est apparu aujourd'hui. Les émigrés que nous avons rencontrés ne considèrent pas forcément leur retour comme étant définitif. Les jeunes Portugais reviennent peut-être au pays, mais à la différence de leurs parents, ils sont déjà prêts à repartir.
Raconter la France, ou plutôt l'une des villes les plus pauvres de France à travers le roman photo. C'est dans Les Racines de la Colère, un ouvrage de Vincent Jarousseau. Le photojournaliste a consacré 2 ans à la ville de Denain et à ses habitants dans le nord de la France. Il est l'invité d'Accent d'Europe.
Denain, c'est un territoire qui a été extrêmement fortement marqué par la désindustrialisation. La fin du Zinor, c'est l'une des plus grosses catastrophes économiques et sociales que la France ait connues dans l'après-guerre. Aujourd'hui, cette ville est l'une des plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté de 45% et un taux de chômage extrêmement élevé. Et c'est vrai que ce qui m'attirait aussi à Denain, c'était tout simplement ces personnes qui sont souvent invisibilisées dans les espaces de représentation. Et donc, effectivement, il a fallu du temps pour gagner cette confiance, venir, revenir, sans systématiquement photographier les personnes, et au fur et à mesure, retranscrire des morceaux de vie, parfois très intimes, ces galères du quotidien, le travail, les loisirs, les vacances ou l'absence de vacances pour certains.
Le livre, c'est d'abord un roman photo. Qu'est-ce que vous vouliez faire à travers cette démarche? Rendre justement vos héros plus vivants?
Je reprends les codes graphiques du roman photo. Et l'idée de cette forme de narration, c'est de plonger le lecteur dans le quotidien de ses familles.
On voit bien à travers ces histoires combien tous sont très très loin du concept du président Macron. Voilà, les premiers de cordée, la France en marche.
Pendant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron avait fait une visite dans le bassin minier où il avait parlé des alcooliques, des illettrés. Et c'était des propos déjà qui avaient beaucoup choqué. Et je me suis dit qu'il serait utile de documenter finalement cette distorsion qu'il pouvait y avoir entre une certaine France, une France un peu des oubliés, et ce président qui proposait comme récit national un nouveau monde, une sorte de start-up nation qui finalement est un récit un peu étriqué pour l'ensemble de nos concitoyens.
Oui, d'autant que pour chaque famille, chacun de vos héros, vous faites d'abord une petite fiche qui dit beaucoup de choses. Donc évidemment, il y a le niveau d'études, le travail, le revenu, et puis surtout la mobilité. Ils en manquent de la mobilité.
Moi, j'ai voulu interroger ce concept qui est très macronien puisqu'il contient une charge assez forte en matière d'injonction. Il faut bouger pour s'en sortir d'une certaine manière. Effectivement, bouger, c'est mieux pour trouver du travail. Mais en même temps, c'est pas toujours une évidence. Ce que j'ai vu à Denain, c'était une grande diversité de situations avec à la fois des vies immobiles, des personnes qui trouvaient finalement un certain nombre d'avantages à peu bouger, notamment toutes les personnes qui perçoivent les prestations sociales. Parce que finalement, la famille, le voisinage, c'est aussi une forme de protection. Et de l'autre côté, on a parmi les travailleurs peu qualifiés, beaucoup de mobilité qui est rendue nécessaire dans les métiers de la route, dans les métiers du BTP, qui sont des métiers en forte tension et où la concurrence est extrêmement forte, notamment avec les travailleurs détachés.
Et puis il y a certains qui n'ont pas les moyens de bouger parce qu'ils n'ont pas de voiture, tout simplement parce que l'essence, ça coûte cher.
L'essence, le passage du permis aussi, qui est un frein économique.
Vous racontez aussi une certaine forme de méfiance qui s'est développée chez les uns et les autres. Donc on compte beaucoup sur le noyau familial. On n'ose plus forcément aller regarder ailleurs. Vous parlez justement de solidarité familiale.
Il y a une part de plus en plus conséquente de l'électorat qui est en rupture avec la classe politique ou qui a décidé de se réfugier dans le vote d'extrême droite. Et cette rupture, elle se fait aussi avec les institutions. Finalement, la valeur de référence dans laquelle on se réfugie, c'est sa famille, ce sont des amis proches, c'est le voisinage, et c'est une forme de contre-société qui se dessine pour essayer de faire face aux difficultés de la vie. Se pose derrière quand même la question de la place du travail dans notre société. Parmi les personnes que j'ai suivies, certaines n'ont plus eu de contrat type CDI depuis plus de 10 ans, et se pose la question de leur employabilité finalement à terme. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'État, les collectivités proposent à ces personnes comme perspective, comme idéal de vie, sachant qu'on leur propose toujours de consommer, puisque la consommation est quand même au centre de leur vie.
Le travail, on en parle à travers tout le livre,
oui.
C'est vital.
C'est un livre, effectivement, sur le travail. On voit aussi beaucoup de, je pense notamment à Loïc, qui donc a fait de la prison, qui a vraiment pas été gâté par la vie. Il a vécu une enfance extrêmement difficile, il a connu les foyers, les violences. C'est quelqu'un qui a aussi travaillé très tôt dans l'industrie automobile, qui est prêt à bouger, qui s'est formé et qui se trouve confronté à des murs, comme il le dit, qui a un vrai problème de confiance dans les institutions. Alors, bon, finalement, ça se finit plutôt mieux pour lui sur la fin, puisqu'il finit par décrocher un contrat d'insertion. Et c'est intéressant parce que ce que l'on voit, c'est que les institutions qui font de l'insertion font un véritable travail de dentelier, et ça demande des moyens par contre. Et en l'occurrence, ces moyens sont aujourd'hui en baisse quand on regarde les budgets de l'État en matière d'accompagnement à l'emploi.
Le livre se termine sur les premières manifestations de Gilets jaunes, les premières occupations de ronds-points. C'est une conclusion logique pour vous ?
Quand on lit bien le livre, il y a des petites alertes, on les entend. Au moment des 80 km/h, des mesures fiscales aussi, puis des petites phrases surtout d'Emmanuel Macron, avec un sentiment d'humiliation qui est quand même extrêmement prégnant. Et il est à noter que finalement les personnes qui s'engagent dans ce mouvement, dans mon livre, sont des personnes qui travaillent et qui ont quelque chose à perdre. C'est vrai que la question du statut social, moi je l'ai vu en allant tous les samedis sur ces mêmes ronds-points, on voyait que c'était plutôt des personnes qui travaillaient en intérim, des bas salaires qui étaient quand même majoritairement présents.
Vincent Jarousseau, Les Racines de la Colère, aux éditions Les Arènes. Il était au micro de Catherine Roland. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast sur le site de RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.